Et si je te disais que la fatigue avait plusieurs visages, elle peut être physique, émotionnelle, immunitaire. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi, une fois les vacances arrivées, tu tombais systématiquement malade. Connaître les différentes formes de fatigue, ça permet de mieux identifier les moments où le corps a besoin de repos. Et justement, comment on fait pour mieux se reposer et mieux récupérer? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment ces différentes fatigues s'influencent entre elles via le triangle de la santé, qui est un modèle pédagogique phare en kinésiologie, avec au cœur de tout ça, le système nerveux. On parlera aussi des modes orthosympathiques et parasympathiques que j'aborde souvent en séance pour aider mes clients à mieux comprendre comment ils fonctionnent. Je te partagerai également quelques pistes d'exploration pour avoir une meilleure récupération. Salut, moi c'est Alexandra, je suis kinésiologue à Valence dans la Drôme, et ce que je te propose par le biais de ce podcast, c'est d'en apprendre plus sur tes fonctionnements et te donner des clés pour dépasser ce qui t'empêche d'être la personne que tu as envie d'être. Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler fatigue. Quelles sont les différentes formes de fatigue, comment elles interagissent entre elles, ce que ça implique au niveau du corps et comment faire pour favoriser une bonne récupération. Donc comme je te le disais en intro, aujourd'hui on va parler de trois types de fatigue en lien avec le triangle de la santé en kinésiologie. Ce triangle de la santé, c'est en réalité un modèle pédagogique, donc c'est ce qui permet de mieux comprendre comment différents systèmes du corps interagissent ensemble et entre eux. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, tu peux te rendre sur la page « La kinésiologie, comment ça marche ?» sur mon site. Il y a une image qui te représente bien ce fameux triangle de la santé. Pour te le décrire brièvement, donc il y a un côté du triangle qui va représenter notre dimension structurelle, notre dimension physique, qui va comprendre les muscles, les organes, les os. Il y a un autre côté qui va représenter notre dimension psychologique, où on va retrouver dedans les émotions, les croyances. Et le dernier côté va représenter notre dimension biochimique, dans lequel on va retrouver tout ce qui est en lien avec les hormones, avec le sang, avec la lymphe. Et au centre de ce triangle, on va retrouver le système nerveux. C'est vraiment la pierre angulaire du corps et c'est ce qui va créer le lien, finalement, entre ces trois côtés. Et en kinésiologie, on part du principe que le triangle doit toujours rester équilatéral. Donc équilatéral, si jamais la géométrie, c'est loin pour toi, un peu comme pour moi, équilatéral, c'est quand les côtés font tous la même longueur. Sauf que, donc, du coup, quand il y a des déséquilibres ou qu'il y a un stress qui apparaît, le triangle, il devient un peu tarabiscoté. Il y a un côté qui va devenir plus petit et du coup, les autres côtés vont s'allonger pour compenser. Finalement, c'est un peu à l'image de ce qui se passe dans le corps. Quand un système fatigue, le côté qui devient donc plus petit, les autres systèmes vont compenser en devenant plus grands, en dépensant plus d'énergie. Sauf qu'à terme, ces compensations, elles épuisent les systèmes. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est forcément tendre vers l'équilibre et avoir des côtés, du coup, si on reprend l'image de ce triangle, avoir des côtés qui font la même longueur. Et c'est à ce moment-là que la notion de fatigue devient intéressante. Et oui, parce que la fatigue, qu'elle soit physique, émotionnelle, immunitaire, elle peut être le signe d'un système qui compense déjà depuis un moment et d'un triangle de la santé qui est déséquilibré. Et finalement, entendre ce signal de fatigue, c'est nous donner l'occasion de faire un pas de côté et de rétablir l'équilibre. Alors, pour démarrer, on va parler de la fatigue physique. Qu'est-ce que c'est une fatigue physique, finalement? C'est quelque chose qu'on sent, mais techniquement, comment ça se passe? Alors, la fatigue physique, donc c'est celle qu'on va sentir dans les muscles, c'est la fameuse lourdeur du corps en fin de journée, le dos qui tire, les trapèzes en béton, la nuque qui est un peu raide. Voilà, toutes ces sensations, eh bien souvent, elles peuvent être dues à un système nerveux sympathique qui reste trop activé. Ce système, il va sursolliciter les motoneurones alpha et tout ça, ça va entretenir une tension musculaire chronique qui peut s'exprimer dans la nuque, dans les trapèzes, dans les épaules, dans le bas du dos, etc., etc. Le problème dans tout ça, c'est que cette tension musculaire chronique, elle va sensibiliser la nociception via l'inflammation. Je le rappelle, la nociception, c'est la sensation de douleur. Et tout ça, ben, ça va créer justement des douleurs qui vont s'installer et qui vont peiner à lâcher. Ensuite vient la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, on pourrait l'imaginer comme ce sentiment de se faire dépasser, d'être débordé par ses émotions. Cette fatigue-là, elle naît quand l'amygdale, donc l'amygdale, c'est la partie du cerveau qui est souvent associée aux émotions, alors pas que, mais souvent on en entend parler par ce biais-là, c'est quand cette partie-là du cerveau, donc l'amygdale, va rester en mode danger. À ce moment-là, il y a une hypervigilance qui s'installe et le cortex préfrontal, donc c'est la partie qui se situe juste derrière le front, qui est une partie du cerveau qui permet davantage de prendre de recul, d'être davantage dans le présent, et ben cette partie-là va se mettre en retrait, elle va s'effacer au profit de l'amygdale qui, elle, vient détecter le danger. D'ailleurs, en cas de stress prolongé sur plusieurs semaines, les neurones vont davantage se développer dans cette zone de l'amygdale, donc cette zone émotionnelle qui détecte le danger, rendant le cerveau donc encore plus vigilant au danger, au détriment de ce cortex préfrontal qui permet de prendre du recul. Donc, à ce moment-là, on est encore plus en hypervigilance et on prend encore moins de recul, et résultat, ben, on va être en proie à des ruminations, à davantage d'irritabilité, le sommeil peut se perturber, etc., etc. Et pour terminer, on va parler de la fatigue biochimique, qu'on pourrait aussi appeler fatigue immunitaire, parce que c'est bien souvent par ce prisme-là qu'on va pouvoir l'identifier. C'est quand on attrape un petit peu tous les petits virus qui traînent parce que notre corps est trop fatigué pour nous défendre efficacement. Donc pour bien comprendre cette fatigue-là, je vais faire un petit rappel de comment fonctionne le stress au niveau du corps, parce que c'est principalement par ce biais-là, que les choses vont se dérégler. Donc, quand on est face à une situation stressante, on va sécréter différentes hormones du stress. Je rappelle que ces hormones du stress, elles ne sont pas à éviter ou à éliminer. Les hormones du stress, c'est ce qui nous aide à mobiliser de l'énergie à court terme, c'est ce qui va nous permettre de courir plus vite pour fuir, c'est ce qui va nous permettre d'avoir plus de force pour combattre quand on est dans une situation de danger. Donc, quand le corps se régule correctement, ces hormones-là, elles sont nécessaires, elles sont même vitales. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui dans toutes ces hormones du stress, ça va être le cortisol. Donc le cortisol, comme toutes les autres hormones, il est nécessaire et il est même vital. Et c'est même lui, le matin, qui va nous permettre, entre d'autres mécanismes évidemment, mais il fait partie des mécanismes qui vont nous aider à nous lever. En fait, le cortisol, il va commencer à être sécrété en milieu de nuit, vers 3-4 heures du matin, pour atteindre un pic sur le matin, et c'est ça qui va nous aider à nous réveiller et à nous lever, en fait. Donc, il est vraiment important, il est vraiment nécessaire à notre équilibre de vie. Là où ça commence à poser problème, c'est quand le stress va durer longtemps, quand on est dans un stress qui devient un petit peu chronique. À ce moment-là, la sécrétion de cortisol, elle va se dérégler, et avec cette dérégulation du cortisol, il va y avoir un déséquilibre de l'immunité et de l'inflammation. Et c'est à ce moment-là qu'on peut sentir qu'on est un peu plus sensible aux petits virus, que la digestion est aussi un petit peu plus sensible. Et tout ça, bah, ça peut être le signe que la dimension biochimique, elle tire légèrement vers le bas. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que ces trois fatigues se nourrissent mutuellement. Une douleur peut entraîner une augmentation de la charge émotionnelle, qui va elle-même induire à terme une réponse inflammatoire plus importante. J'ai mal au genou, la douleur ne passe pas, je ne peux plus pratiquer la course à pied, ça me mine le moral, et tout ça, bah, ça crée un stress latent. À terme, la douleur va s'amplifier, le stress associé va augmenter, et mon organisme se fatigue encore un petit peu plus. Je vais donner un autre exemple, un stress psychologique prolongé au travail. Bah, il peut créer des tensions corporelles et un sommeil perturbé, un petit peu haché. De ce fait, je vais être un peu plus irritable, et à force, je vais tomber plus souvent malade, car mon corps ne parvient plus à récupérer correctement. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième partie, le système nerveux autonome et ses modes orthosympathiques et parasympathiques. Le système nerveux autonome, il va fonctionner selon deux modes. Un mode de passage à l'action, qu'on va appeler orthosympathique ou sympathique, et un mode de récupération, dit parasympathique. Comme son nom l'indique, cette partie du système nerveux, elle est autonome et elle échappe complètement à notre contrôle conscient. C'est une partie du système nerveux qui va fonctionner grâce aux expériences, aux apprentissages, aux croyances, à nos perceptions du monde, etc., etc. D'où l'intérêt, finalement, d'aller travailler cet aspect qui paraît plus psychologique pour avoir un impact sur le corps. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est « Ouais, mais ok, comment on sait quel mode est activé ?» Donc, quand l'orthosympathique, ou le sympathique tout court, est activé, en cas d'alerte ou d'activité sportive, par exemple, parce que oui, ce mode-là, il ne va pas s'activer qu'en cas de danger. Il s'active aussi dans des moments où le corps va avoir besoin d'être mobilisé, donc une activité sportive. Donc dans ces moments-là, les signes qui vont être les voilà qui vont nous indiquer qu'on est dans ce mode sympathique, ça va être le cœur qui bat plus vite, la vigilance qui augmente, le corps qui est prêt à agir, les muscles qui sont tendus. Donc tout ça, même si c'est parfois associé à quelque chose d'assez inconfortable et désagréable, malgré tout, c'est un mode qui reste essentiel. L'idée, c'est toujours de tendre vers cet équilibre. Il est essentiel à partir du moment où on parvient à revenir en mode parasympathique. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est le mode parasympathique, c'est ce mode de récupération et de repos. Donc, ça va comprendre la digestion, le sommeil, la réparation tissulaire, le stockage d'énergie. Quand ce mode est inhibé trop longtemps, la récupération, elle se fait plus très bien. Ça devient un peu difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à taper dans les réserves d'énergie, qu'on va commencer à compenser pour parfois aller jusqu'à l'épuisement. Tu as peut-être déjà été concerné par cet exemple. Ça fait 6 mois que tu es au taquet au boulot, les vacances arrivent, tu t'es prévu un super programme, tu es trop content. Et bim, premier jour des vacances, tu tombes malade. Et ça te fait ça à chaque vacances. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là ? Donc, pendant ta période de travail, très certainement que tu es sous pression, donc mode orthosympathique ou sympathique bien activé, ce qui implique d'avoir un système qui tourne pleine bourre sans jamais vraiment relâcher et recharger. Donc, probablement que la fatigue physique ou émotionnelle est là et que la dimension immunitaire compense un petit peu. Bah ouais, il faut tenir le coup, quoi. Sauf qu'une fois que les vacances arrivent, ton corps voit l'occasion idéale de recharger les batteries. Il va donc passer en mode parasympathique, les compensations se relâchent, l'immunité va donc se réduire, et bim, le moindre petit virus qui traîne, ben, il est pour toi, et ça te gâche les vacances. Mais alors, comment on fait pour que cela n'arrive plus ? Comment on s'y prend pour mieux réguler son système nerveux autonome ? Bon, tu te doutes bien que je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'ai envie de te répondre, on vient faire une séance de kinésiologie. Bon, blague à part, il y a de nombreuses possibilités d'accompagnement. Mais le premier pas à faire quand on est sujet à une fatigue importante, c'est d'abord d'en parler avec son médecin traitant. Il est vraiment capital que des méthodes complémentaires comme la kinésiologie, l'hypnose, la sophro, enfin toutes ces méthodes-là, ne retardent pas la prise en charge médicale quand celle-ci est nécessaire. Donc, on va d'abord voir son médecin traitant, on fait tous les examens complémentaires. Souvent, quand il y a une fatigue qui est importante, le médecin peut prescrire une prise de sang. Ça permet aussi de savoir comment les choses sont au niveau du corps et au niveau de la biochimie, justement. Donc voilà, donc c'est important de vraiment commencer par là pour ensuite s'orienter vers d'autres méthodes quand voilà, ça peut permettre de compléter ce que propose le médecin. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau médical, on s'oriente vers de la kinésiologie pour aller travailler sur cette régulation du système nerveux. Quand c'est une fatigue qui est davantage physique, bah, l'ostéo, le chiro, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Quand il y a une fatigue qui est davantage émotionnelle, des approches de psychothérapie, d'hypnose, de sophro, ça peut être des super bons leviers. Et quand c'est une fatigue qui est davantage biochimique, certains accompagnements avec un naturo peuvent vraiment être un bon soutien. Mais toujours en complément d'un suivi médical et en accord avec le médecin, évidemment. Donc, comment ça se passe en kinésio quand on vient pour de la fatigue ? Alors, en fait, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que la kinésio, par les différentes stimulations sensorielles, les exercices de respiration, certaines mobilisations corporelles, eh ben, elle va aider à réactiver le système parasympathique, ce mode de récupération. Et c'est d'ailleurs bien souvent pour cette raison qu'à l'issue d'une séance, on se sent détendu ou fatigué ou un peu cotonneux. C'est que pendant la séance, on a envoyé des signaux de sécurité au corps qui lui ont permis de repasser en mode récupération. Et c'est grâce aux exercices qu'on a à faire à la maison qu'on apprend finalement au corps à retrouver cet état-là de manière un peu plus automatique. Donc concrètement, comment ça se déroule une séance quand on vient pour de la fatigue ? De manière tout à fait classique, hein, notre première partie de séance, elle va nous permettre de clarifier un peu la problématique actuelle. Quand est-ce que les choses empirent ? Qu'est-ce qui va déclencher de la fatigue ? Les différents ressentis corporels qui peuvent y être associés, etc., etc. L'idée à ce moment-là, c'est vraiment d'activer les circuits neuronaux qui sont associés à cette fatigue pour ensuite aller les travailler, les moduler et réinformer le cerveau de ce qu'on est en train de bosser. Dans un deuxième temps, tu t'installes sur la table et à ce moment-là, moi, mon job, ça va être de venir tester différentes stimulations avec le test neuromusculaire pour justement identifier les stress qui sont activés dans cette situation de fatigue. C'est ce qui va me permettre finalement d'identifier les systèmes qui sont impactés et ce qu'on va avoir à travailler. Et donc, dans un troisième temps, je vais utiliser différentes stimulations sensorielles, des mobilisations douces pour venir réguler le système nerveux autonome. À ce moment-là, l'idée, c'est vraiment d'envoyer de nouvelles afférences pour que le cerveau reconsidère la réponse automatique qu'il a enregistrée sous stress. Et c'est ça qui va nous faire gagner en sécurité au niveau du corps et qui va permettre de repasser dans un mode de récupération, dans un mode parasympathique. Et dans un quatrième temps, le job, ça va être à toi de le faire parce que cette première séance de kinésiologie, elle permet d'encoder une première fois. Elle permet de montrer au corps qu'il peut revenir dans ce mode de récupération, dans ce mode parasympathique. Mais pour que le cerveau il choisisse ce nouveau chemin, il va falloir le consolider. Le consolider en lui rappelant tous les jours, pendant plusieurs semaines, ce qu'on a travaillé. Plus ça va être consolidé, plus ça va être ancré, plus ça va être intégré au niveau du corps, plus ça sera facilement activable dans des situations qui peuvent être déclenchantes à la base. Et donc grâce à tout ça, ça va aider le corps à basculer du mode sympathique, donc du mode alerte, au mode parasympathique, donc dit de récupération. À ce moment-là, ça va aider à réduire l'inflammation, ça va aider à réduire la sensibilité à la douleur et on va aussi redonner la main au cortex préfrontal, celui qui nous aide à prendre du recul pour avoir une réponse beaucoup plus adaptée. Donc tu l'auras compris, la fatigue peut prendre plusieurs formes et les comprendre, c'est mieux les identifier pour agir avant que le corps ne s'épuise. De nombreuses techniques, dont la kinésiologie fait partie, peuvent venir compléter un suivi médical en fonction du type de fatigue et être de très bons leviers de régulation. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura permis de mieux comprendre ton fonctionnement et surtout de poser un nouveau regard sur ce que tu vis. Si tu sens que certaines choses te freinent aujourd'hui, que ce soit dans ton corps, dans tes émotions, dans tes décisions, sache que je peux t'accompagner. La kinésiologie permet de remettre du mouvement là où tout semble figé. Donc si tu as envie d'aller plus loin, tu peux réserver ta séance directement sur mon site www.alexandra-kinesio.fr. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode !